19h sur Bac FM 106.1, fin d'après-midi, début de soirée, journée importante qui est ce mercredi 10 décembre 2025. C'était la journée mondiale des droits de l'homme et du citoyen. Quelques chiffres avant de commencer cette émission. À l'échelle mondiale, l'ONG Freedom House nous dit que la liberté recule pour la 19e année consécutive. En 2024, le droit politique et les libertés civiles se sont dégradés dans 60 pays et n'ont progressé que dans 34. Si on regarde maintenant chez nous en France, la situation n'est pas brillante non plus. Dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse, publié par nos confrères de Reporters sans frontières, la France a perdu 4 places en un an. Elle est passée de la 21e à la 25e position sur 180 pays. Pour un pays qui se présente comme la patrie des droits de l'homme, ce recul interroge. Émission spéciale donc sur Bac FM pour parler de ce grand thème. Je reçois Patrick Noyon, responsable de la section nivernaise de Amnesty International, une ONG qui défend les droits humains. Bonjour Patrick Noyon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Bac FM. Soyez le bienvenu.
Merci de m'avoir invité.
Pour planter un peu le décor pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez d'abord présenter un peu ce qu'est Amnesty ?
Oui, Amnesty International, comme vous le disiez, est une ONG qui a été fondée en 1961 et qui a une représentation de section française depuis les années 70 et qui organise ses actions et ses campagnes autour de la Déclaration universelle des droits humains qui a été définie par l'ONU en 1948. Voilà, c'est la base, c'est-à-dire que les textes de la Déclaration universelle servent à notre ONG pour définir des campagnes sur ces différentes thématiques, faire des publicités autour de ces campagnes et aussi d'agir à travers des actions diverses, notamment des pétitions et des actions sur le terrain pour obtenir la libération et le respect des droits humains sur la planète.
ONG, on rappelle, organisation non gouvernementale. Peut-être que les gens ne se rendent pas trop compte de ce que ça veut dire Amnesty au niveau local dans la Nièvre. Concrètement, c'est quoi votre rôle ?
Eh bien, nous existons dans la Nièvre depuis les années 75. Et chaque groupe local, puisque un groupe est rattaché à une ville ou à un village, en général ce sont des villes de taille moyenne ou des grandes villes, et nous sommes 250 groupes locaux à travers la France, et le groupe local d'Amnesty Nevers, créé dans les années 75, a le numéro 172, donc ça a été la 172e ville qui s'est créée dans la Nièvre au niveau d'un groupe local. Il faut savoir qu'à l'époque, dans la Nièvre, il y avait trois représentations locales. Il y avait Clamecy, il y avait Corbigny, il y avait Nevers. Les deux ont fermé, Clamecy et Corbigny. Clamecy et Cône ont fermé, il reste maintenant Nevers. Nous avons pendant de nombreuses années travaillé notamment en direction des jeunes sur Nevers, dans une institution qui s'appelait le Pac des Ouches, dans la rue Saint-Martin. Et cette institution ayant fermé il y a quelques années, maintenant, nous avons recentré notre pratique plutôt autour des établissements scolaires. Nous avons travaillé jusqu'à l'année dernière, du moins jusqu'à cette année, nous avons travaillé avec le lycée Rolf Olro pendant 4 ans sur différents projets. Et nous travaillons aussi avec le collège des Monteaux.
Pour les sensibiliser, les élèves aux droits de l'homme ?
Pour les sensibiliser de façon concrète. C'est-à-dire que nous avons organisé différentes conférences selon le souhait des étudiants de Follereau, avec la venue de témoins assez imminents qui ont organisé des conférences et des projections. Et nous avons aussi eu cette année, au mois de février, la chance de pouvoir emmener 6 jeunes du lycée Follereau directement en immersion vers les migrants de Calais, dans la jungle de Calais, enfin ce qui s'appelait la jungle de Calais. Ce sont des jeunes qui, pendant une semaine, ont fait les maraudes, ont participé aux actions du Secours catholique, ont participé aux actions de l'auberge des migrants, et puis également ont pu assister de près à la situation qui était faite par notre gouvernement aux migrants sur le terrain, et également ensuite rendre compte à la fois à leurs amis étudiants au sein du lycée, et également témoigner auprès du public à travers le journal du centre et la radio de leur expérience et de ce qu'ils ressentaient. Donc c'est important de témoigner, de pouvoir faire témoigner des jeunes pour qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion et puissent rendre compte sur la population de la situation réelle.
C'est la journée mondiale des droits de l'homme et on a parfois l'impression que c'est une journée de plus. Vous savez, il y a beaucoup de journées mondiales pour à peu près tous les sujets. Pour vous, en 2025, c'est encore utile d'avoir ce genre de journée, c'est important ?
C'est très important. C'est très important malgré les nombreuses attaques que les droits humains reçoivent depuis quelques années. Ils sont constamment remis en question. Et il est d'autant plus primordial de maintenir cette journée, de maintenir ce souvenir. Nous, à Amnesty International, au moment de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains de 1948, nous avons une action qui s'appelle 10 jours pour signer, changer leur vie. Nous mettons en évidence 10 cas de personnes qui sont incarcérées dans le monde, soit pour la violation de leur liberté d'expression, soit parce que ce sont des militants sur des thématiques qui gênent les gouvernements en place et qui sont incarcérés, donc, pour certains depuis plusieurs années. Donc nous mettons en évidence ces 10 personnes et l'ensemble des militants d'Amnesty à travers la planète, hein, nous sommes quand même 4 millions de militants, mettent ces situations en évidence, recueillent des pétitions, font du lobbying auprès des gouvernements pour obtenir l'amélioration des conditions et surtout la libération de ces personnes.
Ici, on tient à rappeler le cas de Christophe Glaise, journaliste injustement enfermé en Algérie. C'est un confrère, voilà. Avez-vous le sentiment que les gens se sentent concernés par cette journée, ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme de lassitude? Est-ce qu'on vous contacte à Amnesty en cette journée, ou est-ce qu'en fait, c'est un peu toute l'année?
Disons que les gens se rendent compte de l'importance des droits humains quand ils viennent à en être dépouillés. C'est surtout ça, c'est qu'on a le sentiment dans notre pays de dire que les droits humains sont respectés, que tout va bien de ce côté-là, que nos libertés individuelles également sont respectées. Mais en fait, quand dans la réalité on est soi-même confronté à ce qu'on peut estimer une injustice, une limitation dans notre liberté d'expression, une perte de nos droits, à ce moment-là on se dit tiens, on avait quand même des droits qui étaient respectés et que là maintenant, c'est plus si simple que ça, c'est plus si sûr que ça. C'est plus tellement garanti. Donc effectivement, il faut rappeler aux gens quotidiennement qu'ils ont des droits et que ces droits, ils doivent les faire valoir et les faire respecter. Et on constate que dans beaucoup d'actions judiciaires, notamment en direction des migrants, en direction des personnes aussi qui ont été agressées, des femmes qui ont été violées ou attaquées, beaucoup des victimes ne connaissent pas leurs droits. Et il est essentiel de maintenir et de développer cette connaissance pour que les gens puissent justement les faire valoir, pour qu'ils ne disparaissent pas.
Je l'ai dit dans l'intro, les indicateurs montrent un recul des libertés en France certes, mais en fait partout dans le monde. Si vous deviez retenir 2 ou 3 grandes tendances inquiétantes dans le monde aujourd'hui, ce serait lesquelles? Est-ce que l'arrivée du président Trump aux États-Unis? Est-ce que la Russie, la Chine, je pense à ce modèle également?
Oui, vous faites allusion à ce qu'on appelle la géopolitique actuellement qui est sur notre planète. Alors, Trump, il faut quand même se replacer dans l'histoire des États-Unis ces 2 derniers siècles. Alors, je parle du 20e siècle et notre siècle en cours. Les États-Unis ont toujours été comme ça. C'est-à-dire, c'est un pays qui a pratiquement jamais signé des conventions internationales, qui est très content d'être allié d'un pays quand il peut, lui, être dominant. Et qu'il aime bien aussi pouvoir contrôler ce qui se passe sur notre planète. Souvent, il y a eu des heurts à travers l'histoire. Pour eux, pour les États-Unis, l'Europe représente un danger. Donc, un des objectifs de Trump, c'est de fracturer l'Europe afin que celle-ci disparaisse. Hein. Il y a 450 millions d'Européens, il y a 260 millions d'Américains. En termes de poids, en termes de marché, l'Europe n'arrive pas à suffisamment peser. Hein. Mais les États-Unis sont les États-Unis, ils ont toujours été comme ça, c'est pas pire. Depuis
qu'il est arrivé.
Bah non, c'est pas pire que sous les années Roosevelt, ou bien dans les années 50, ou dans les années 60. Il y a eu parfois moins de tensions avec un président comme Obama, ou ces personnes-là qui avaient une conscience un peu plus sociale, à la hauteur américaine. Le social, hein, c'est toujours très limité. Mais non, l'Amérique a toujours été l'Amérique. C'est la connaissance de l'histoire des rapports entre les pays qui fait que ça choque les gens que Trump... Mais non, en fait...
Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas un point de bascule quand on voit que dès son arrivée, il s'attaque à la science, que lors de la fin de son premier mandat, il est quand même soupçonné d'avoir fomenté un coup d'État? Est-ce que ce n'est pas un recul majeur quand même?
Make America Great Again. C'est son, et ça, les Américains adhèrent 100% à ce projet-là.
Rendre l'Amérique fabuleuse pour les non-anglophones.
Voilà, rendre l'Amérique de nouveau la plus grande et la plus forte. Donc, supprimer les fonds sur les scientifiques, c'est surtout aussi supprimer la coopération internationale qui était financée par des fonds américains et d'autres fonds. Donc, c'est récupérer une hégémonie dans le domaine de la science qu'il pourra ensuite vendre à travers la planète. Donc, Tout va dans ce sens-là. La puissance américaine passe par la puissance de l'armée, par la puissance de l'argent.
On a tendance à se dire, en France, voilà, la France, grand pays, démocratie, état de droit, on est quelque part protégé. Alors, est-ce que c'est si vrai que ça? Je voulais vous poser la question, parce que quand vous regardez la situation des droits humains en France, globalement, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui en 2025?
On voit qu'il y a des choses qui restent récurrentes et qui sont difficilement améliorées. On peut parler de l'état des prisons, déjà, qui depuis des années pose problème, et que la France a été très souvent condamnée, notamment par les ONU ou par la Cour européenne des droits de l'homme, pour indignité de ses prisons, et c'est encore le cas maintenant. Il y a toujours 130% d'occupation des prisons, il y a encore des matelas par terre, encore des cellules de 4 ou 5 personnes, et ainsi de suite, et ça ne s'améliore pas.
Que le président Sarkozy semble avoir découvert récemment.
Oui, mais quand même dans un certain confort que voudrait bien avoir un bon nombre de prisonniers. Hein. Donc il y a l'état de prison, il y a aussi bien entendu la situation qui est faite aux migrants, hein, qui est intolérable, et cette situation va en s'empirant, puisque maintenant les personnes qui ont obtenu la carte de séjour, le statut de réfugié, au bout de 10 ans, quand ils vont à leur renouvellement, se voient parfois refuser le renouvellement de leur carte, alors qu'ils sont installés depuis 10 ans, qu'ils ont une famille, des enfants, qu'ils perdent leurs impôts. Il n'y a aucune raison, et pour des raisons administratives, on ne renouvelle pas leur titre de séjour. D'ailleurs, les préfets ont reçu des consignes bien précises de faire traîner au maximum les demandes de dossiers d'asile. Ils se perdent dans les méandres administratifs, on fait traîner de plus en plus, on fait revenir les gens de plus en plus souvent. Un demandeur d'asile à Nevers, pour pouvoir faire sa demande, il doit aller à Besançon. C'est quand même une trotte. Alors forcément, ils n'ont pas le temps de travailler, ils n'ont pas d'argent. Donc à Nevers, c'est des associations qui bénévolement les accompagnent pour pouvoir remplir leur dossier. Et pour finir ce territoire de migrants, je vais vous citer un cas que j'ai vécu personnellement. J'ai ramené à l'ambassade du Soudan la semaine dernière un ressortissant soudanais qui était en France depuis 9 ans et demi, qui n'était toujours pas régularisé et qui était complètement épuisé moralement. Quand on sait la situation du Soudan actuellement, avec la famine, avec les bandes armées, avec les dizaines de milliers de morts qui se déroulent là-bas, il a préféré retourner dans son pays que de rester en France. Ça dit bien à quel point il est désespéré et qu'il n'espère plus rien en notre pays, à ce niveau-là.
Est-ce que le nom Ariane Lavrieux vous parle ? C'est une consoeur journaliste d'investigation française qui a travaillé notamment pour le média Disclose. En 2021, elle révèle l'opération Cyril, une coopération militaire secrète entre la France et l'Égypte, accusée d'avoir servi à des frappes contre des civils. En septembre 2023, pour ses révélations d'intérêt public, elle a été perquisitionnée à l'aube par la DGSI et placée à 39 heures de garde à vue.
Tout à fait. Oui.
Une journaliste, une consoeur, je tiens à le rappeler. Ma question, elle va être très directe et très simple. Est-ce que la France mène des violences d'État envers les droits humains ? Selon Amnesty International.
Alors, la France est suffisamment, en tout cas les services français sont suffisamment vigilants pour vendre des armes à des pays qui lui permettent de le faire. Ça, c'est pas un problème. Sauf que elle sait très bien que ces armes sont détournées de leur utilisation. La France continue à vendre des armes à Israël. Des armes non agressives, cependant, ces armes servent quand même à bombarder Gaza ou à agir avec les forces israéliennes sur les territoires occupés. C'est le même cas pour l'Égypte et pour d'autres lieux où, en vendant à un pays qui lui-même va vendre les armes ailleurs, ça permet comme ça de continuer à fournir des armes dans les différents conflits.
Hein. D'où ma question, est-ce que la France étant le pays des droits de l'homme auquel on vend ?
Le tout, c'est de faire du commerce dans... Il y a un traité qui régule le commerce des armes. Ce traité a été approuvé par l'ONU, ratifié par la France, il y a à peu près 7-8 ans. Et donc, il définit à qui on peut vendre des armes, dans quelles conditions. Quand un pays est en conflit, on ne peut pas lui vendre des armes d'armes pour que ne pas augmenter ce conflit, ne pas augmenter les persécutions qui peuvent être faites contre les pays. Donc, il y a des traités qui sont faits. Ils sont détournés par le ministère de la Défense, le ministère des Armées, pour pouvoir continuer à vendre des armes. Et la France est le troisième vendeur d'armes au monde. Et puis aussi, leur argument, c'est de dire, d'abord, c'est d'être très opaque. Il faut bien être clair, c'est-à-dire que pour avoir des informations sur le commerce des armes, c'est extrêmement compliqué. Normalement, à travers les députés, on devrait pouvoir avoir toutes les informations, ce n'est pas le cas. Il y a, je crois, une dizaine de jours, s'est tenu à Orly le Centre international des armes. Israël avait une dizaine de stands qui étaient représentés. Donc, vous voyez, ça continue à bien marcher. Oui, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de salariés sur notre territoire. Il y a aussi ce côté économique-là qui est important. Quoi.
Après, il y a des pays qui font des actions, je pense à l'Espagne ou aux Pays-Bas,
oui,
par exemple.
Bien sûr, ils se mobilisent, ils arrêtent les bateaux dans les ports pour empêcher que le transport des armes puisse avoir lieu. Il y a une action qui a été menée par la CGT au Havre il y a quelque temps pour pouvoir effectivement bloquer ces bateaux.
Les dockers, hein.
Oui, voilà. Qui bloquaient le port. Mais ça reste très, très limité. C'est un commerce qui, à part de le dénoncer, c'est ce qu'on fait à travers... Nos rapports, à part le dénoncer à l'international, pour que ça nuise à la réputation de la France, pour l'instant, c'est tout ce qui est faisable.
On parle beaucoup de la montée de l'extrême droite partout dans le monde, notamment aux USA avec le président Trump qui s'attaque aux droits LGBT et à la science. Les experts, les politologues, les analystes parlent carrément de l'ère de la post-vérité. Très concrètement, en quoi cette progression politique de l'extrême droite pèse-t-elle sur les droits humains ?
C'est une politique... qui se développe. Il n'y a pas que Trump, il y a aussi quelques pays d'Amérique latine, il y a également en Europe, avec Orban,
Meloni,
ainsi de suite. Et ça continue à monter. Ça monte également en France. Les derniers sondages le montrent. La réalité sur notre territoire même montre une montée importante du Rassemblement national de l'extrême droite.
Alors on se parle, Jordan Bardella gagne dans tous les cas de figure au second tour.
Oui, alors...
Selon un sondage Oxfam, pas Oxfam.
Ça, il faut faire attention aussi, parce que c'est pas des sondages innocents. C'est des sondages qui vont aussi, hélas, influer sur la façon dont les populations vont agir au niveau du vote. Donc, oui. Les médias devraient être un peu plus prudents sur les informations qu'elles diffusent ou qu'elles veulent recueillir, ou tout au moins les contextualiser. Or, elles ne le font pas.
C'est le cas ici à BAC FM. Je tiens à le souligner.
Tout à fait. Et donc, par rapport à votre question, il y a une montée généralisée. Il y a 30 ans, toute l'Europe était de gauche. C'était clair, c'est sociodémocrate. Il y a à peu près 20 ans, la France était complètement de gauche. Toutes les régions avaient pour président des hommes de gauche, le gouvernement était de gauche, avait la majorité, ainsi de suite. Bon, tout s'est écroulé. Et maintenant, c'est la droite qui reprend le... Et la droite n'a jamais été très compatible, n'a même pas du tout été compatible avec les droits humains.
Oui.
Voilà, donc effectivement, plus la droite monte, plus les droits humains sont mis en danger.
On va parler de droits humains, parlons de local. Qu'est-ce que fait Amnesty International en cette journée des droits humains dans la Nièvre ? Autre question, est-ce que l'arrivée de Julien Guibert du Rassemblement National dans la deuxième circonscription de la Nièvre a joué quelque chose pour vous, ou du moins est significatif ?
Ce que je vais préciser, c'est que Amnesty International n'intervient pas sur l'organisation sociétale d'un pays.
Oui.
Ce qui est important, c'est le respect des droits de l'individu. Les droits humains sont universels, donc elles concernent toutes les personnes sur notre planète, et ils sont indivisibles. C'est-à-dire qu'on peut prendre, on peut pas en prendre un bout et pas un autre, il faut les prendre dans leur totalité. Donc, ce sur quoi on doit être vigilant, c'est que la liberté individuelle et le respect des droits des personnes individuelles soient respectés. Par rapport à votre à tout à l'heure la nomination que vous avez fait du journaliste sportif qui est emprisonné à Alger.
Christophe Besson.
Voilà. Notre regard sur cette situation, c'est de voir si les droits de la défense sont respectés, s'il bénéficie de conditions d'incarcération qui sont compatibles et humaines. Hein, c'est sur ça que va agir notre action. Et ensuite aussi de savoir s'il n'est pas victime, d'un excès de justice, quoi, s'il n'a pas été arrêté pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Hein, voilà. Donc on est vigilant là-dessus. Pour revenir au territoire, bon, le groupe de Nevers, le groupe local de Nevers, en ce moment est très diminué. Nous avons peu d'agents actifs. Donc c'est pour ça que depuis 2 ans, nous avons recentré notre action sur les lycées et sur les collèges. Par contre, nous participons à des collectifs qui peuvent se mobiliser à travers d'autres associations. Pour notamment, il y aura une manifestation qui va avoir lieu et nous participerons, c'est à ce titre-là qu'on peut se manifester sur le terrain.
Donc ouais. Aujourd'hui, pour cette journée particulière, il n'y a pas d'activité spéciale organisée?
Voilà, pas au niveau d'Amnesty International. Ce que nous encourageons toujours à faire, notamment à travers les médias locaux que nous mobilisons, c'est d'informer les gens que grâce à Internet et à notre site amnesty.fr, toute personne qui dispose d'un ordinateur peut agir et défendre les droits humains directement.
Vous venez de le dire, vous faites de la sensibilisation auprès des élèves. On vit dans un monde saturé d'infos, c'est pas vous que je vais l'apprendre, de fake news notamment, de discours de haine sur les réseaux sociaux. Je pense à X, anciennement Twitter, tenu par le milliardaire d'extrême droite Elon Musk. Est-ce que ça complique votre travail de sensibilisation auprès des jeunes?
Ça le complique, effectivement. Parce que on doit aussi tenir compte de ces informations que les jeunes ont. Cependant, on a une assez grande confiance en la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes ne sont pas si bêtes que ça, quand même. Donc, il faut bien le reconnaître. Donc, dire qu'ils sont complètement tout le temps sous l'influence des réseaux sociaux, c'est pas vrai.
Je pense d'ailleurs, ça ne concerne pas que les jeunes.
Hein. Ça ne concerne pas que les jeunes. Ils arrivent à faire la part des choses, tant soit peu qu'on leur donne les bons outils pour le faire, quoi. Et ça veut dire de passer par de l'information, par leur donner à travers leurs études aussi des enseignants et puis des associations, leur donner suffisamment de connaissances pour qu'ils puissent eux-mêmes séparer le bon grain de l'ivraie. Et chaque fois qu'on a pu mener des actions au niveau des lycées ou des collèges, on a bien vu que ça résonnait en eux et qu'ils étaient réceptifs et qu'après, ils étaient beaucoup plus pertinents dans l'analyse des faits qui pouvaient être faits et de ce qu'ils pouvaient vivre sur les réseaux sociaux.
Mais justement, on sait que les jeunes sont plus sensibles que leurs aînés sur certaines causes. Les jeunes sont plus sensibles, par exemple, sur le génocide qui se passe à Gaza. Ils sont plus investis de façon générale. Ils partagent plus de choses sur ces mêmes réseaux sociaux. Comme quoi, c'est pas forcément négatif. C'est aussi un regard que vous avez.
Oui. Mais alors là, on se heurte à autre chose. On se heurte, justement, à la liberté d'expression.
Oui.
Il faut bien savoir que parler de Gaza, c'est tabou. Parler de la Cisjordanie, des territoires occupés, c'est tabou.
C'est tabou en France.
Bien sûr que c'est tabou. Je ne pourrais pas nommer le nombre de conférences ou de colloques sur le sujet de Gaza, la Palestine, les rapports entre Israël, qui ont été interdits ou qui ont été annulés.
En France, vous voulez dire ?
Mais en France, bien sûr, il y a encore 3 semaines, un colloque à Paris devait se tenir sur Gaza, territoire occupé et l'avenir avec Israël. Il a été annulé 2 jours avant.
Par la pression du CRIF, j'imagine, ou peut-être
non, pas, non, pas forcément. Il y a une peur qui est instituée.
Oui.
Nous avons beaucoup travaillé et nous avons, avec beaucoup d'efficacité et de vigilance, à Raoul Folon. L'année dernière, en septembre, quand les étudiants ont choisi certains thèmes, le thème de Gaza est apparu. Parce qu'ils avaient besoin d'informations, de savoir qu'est-ce qui se passait réellement. Ça n'a pas été possible à aborder. C'est trop compliqué.
Par des pressions administratives ?
C'est pas vraiment une pression, c'est une peur.
Une peur.
C'est une peur. C'est-à-dire qu'effectivement, par quel bout on va le prendre, comment ça va se faire, comment on va le dire. Mais surtout, c'est la peur de... Est-ce que ça ne va pas entraîner des conflits au sein même de l'établissement, entre les étudiants, entre eux ?
On recevait le rappeur Medine récemment, que vous connaissez peut-être, et son discours est sur nos ondes de Bac FM, interview retrouvable en podcast évidemment sur notre site. Mais en gros, il disait... que voilà, aujourd'hui, dénoncer la guerre à Gaza, on pouvait se faire taxer d'antisémite pour ça, alors qu'en fait, on protège des vies.
Ça remonte à 15 ans.
Oui.
Une enseignante a fait une exposition sur Gaza. Sur Gaza, Israël, la Palestine. C'était une enseignante, c'était dans son domaine, c'était une prof d'histoire. Elle s'est retrouvée taxée d'antisémitisme, alors que c'est pas du tout... Et c'était il y a 15 ans.
Ici, alors, Raoul Folon.
ici et à Raoul Follereau. Mais c'est une histoire, hein. C'est pas, je ne veux pas jeter de l'eau propre sur le lycée. Au contraire, qu'on ait pu travailler avec eux depuis 4 ans, qu'on était intervenu aussi au moment, il y a quelques années, où il y a eu des phénomènes racistes qui se sont déroulés. C'est un lycée qui prend ça en compte et qui veut travailler ça. Mais la plainte, elle n'est pas des étudiants ni des élèves. C'était l'éducation nationale. Et ce que je veux dire par là, c'est que les instances, elles sont très vigilantes, peur de troubles de l'ordre public.
Le fameux pas de vague.
Le fameux pas de vague. Donc, Gaza, la Palestine, depuis 2 ans, c'est no comment. Ça, c'est clair. Même dans les médias, vous verrez. Est-ce que vous entendez parler de Gaza en ce moment ?
Très, très peu. Surtout depuis le fameux cessez-le-feu fragile.
Alors que ça continue, que quotidiennement, les Israéliens continuent à bombarder ou bien à faire de la répression contre
les Palestiniens. Une cinquantaine de violations du cessez-le-feu, je crois, depuis
bien sûr, et
sa mise en place. En tout cas, tous les jours, à 13h, on en parle sur BAC FM.
L'humanité n'arrive toujours pas à pénétrer de façon satisfaisante et ainsi de suite. Donc c'est un sujet de la Palestine, comme vous dites, c'est un sujet tabou.
Un sujet tabou, c'est intéressant ce que vous venez de dire, notamment sur les pressions. C'est intéressant de savoir qu'il y a aussi ça dans le coin, en fait.
Je tiens à souligner, c'est pas des pressions doctrinales, ou bien qui viennent dire, c'est de la peur.
C'est de la peur.
C'est de la peur de retrouver des étudiants qui vont dans le fantasme des instances, vont se battre, ou bien les musulmans qui vont taper sur des élèves dont ils pensent qu'ils sont juifs, ou ainsi de suite, donc créer des conflits intérieurs du lycée.
La peur qui est la première montée du fascisme, une des premières causes, hein, selon les historiens.
On distille la peur quand vous regardez les médias d'information 24/24, on distille la peur auprès des personnes, hein, auprès des gens. Donc ça, plus un phénomène de baisse générale de la culture, il faut bien le dire. Hein. C'est-à-dire que maintenant, l'accès à la culture devient compliqué, ou alors passe au second plan, devant les réseaux sociaux, devant d'autres choses. Et une base, là ils ont fait, l'éducation nationale a sorti un test comme quoi les jeunes qui vont passer leur bac, s'il y a trop de fautes, ils n'auront pas la moyenne. Bon. La méconnaissance de la langue française, dans son orthographe, dans sa syntaxe, les étudiants ne vont pas le corriger en un an. Donc je veux dire, il faut mettre en application quelque chose à partir de l'école primaire pour rectifier ce genre de choses. C'est pas un an avant qu'on va leur dire, il faut vous maîtriser l'orthographe et puis la grammaire.
Évidemment.
Bon. Et on a constaté aussi que dans une conversation normale dans les années 80, on utilisait en moyenne 250 mots. On en est à 125.
C'est-à-dire que... C'est même pas un tweet. Hein, c'est même pas...
C'est-à-dire que de mots différents. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la capacité à pouvoir échanger, à pouvoir parler, à pouvoir penser, puisque le langage est très lié à la pensée, diminue. Donc tout ça va dans le même sens d'un abaissement général de la pensée, de la mise en sens qui ouvre le territoire aux extrêmes.
Je vois que l'heure tourne, ça fait 25-30 minutes qu'on décrit un tableau assez sombre pour nos auditeurs, peut-être une pointe d'espoir si un auditeur ou une auditrice se dit « voilà, j'ai envie d'agir pour les droits humains à mon niveau, comment on vous contacte Amnesty International Nièvre ?» C'est comme ça qu'on dit
Amnesty Nevers.
Amnesty Nevers, tout simplement.
Donc il y a un mail qui est très simple, ça c'est amnesty.nevers@laposte.net.
Oui.
Et donc vous écrivez sur ce mail et puis vous trouvez nos coordonnées téléphoniques aussi dans n'importe quel répertoire associatif sur Nevers.
Vous cherchez du monde ?
Ah, on cherche du monde, oui.
Okay.
Ça, c'est vrai. Ça va être notre objectif l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va mobiliser un peu les forces qui nous restent pour faire une grande campagne, mais à travers la Bourgogne entière, une grande campagne de recrutement. Puisque en Bourgogne, il y a 11 groupes locaux différents.
Et elle commencerait quand, cette campagne ?
Oh, probablement aux vacances de février ou aux vacances d'avril. On va faire une caravane qui va parcourir la Bourgogne et qui viendra à Nevers et on fera des actions pour mobiliser, recruter de nouveaux militants.
Et vous pourrez bien sûr revenir à la radio pour en parler.
C'est gentil.
Merci Patrick Noyon d'avoir répondu à mes questions.
Merci de m'avoir accueilli. Merci.
Je rappelle que vous êtes responsable de la branche départementale de Amnesty dans la Nièvre. C'est responsable d'Amnesty Nevers aussi.
Voilà, on peut dire ça.
On peut dire ça.
Voilà.
On se retrouve très bientôt sur BAC FM 106.1 pour une nouvelle émission. D'ici là, restez à l'écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez à vous informer sur vos droits. Bonne soirée à toutes et à tous sur BAC FM.
Au revoir.